Alors en tout cas, Pâques, c'est effectivement le moment préféré de certains, mais c'est aussi pour les chrétiens et pour nous, probablement le moment le plus important de l'année. Hein ? Et donc on va essayer de regarder ce matin, avec différentes scènes, différents tableaux, pourquoi c'est si important la Pâque. Mais je vais poser des questions tout au long de ce culte, de cette célébration de Pâques. Et vous savez que la semaine dernière, on a organisé un club de Pâques à la maison et on avait caché des œufs. Et nous, on est repassé derrière vous et il y en avait plein. Et regardez tout ce qui reste. Oh ! Mais la dernière fois, vous deviez les chercher. Là, il va falloir les gagner. D'accord ? Il va falloir participer. Et je donnerai des œufs à ceux qui participent. Alors bien sûr, ça marche aussi pour les adultes. Si vous voulez des bons œufs, on a deux paniers comme ça. Donc Sandrine, elle va aussi en distribuer. Donc on est généreux ce matin. C'est distribution aussi d'œufs en chocolat. D'accord ? Alors, vous allez découvrir derrière moi cinq tableaux qui retracent le chemin de Pâques. Et on voudrait ce matin vous amener avec nous dans ce chemin de Pâques. Et on va commencer tout de suite par ma droite. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ma droite, les enfants ? Ah. Alors, vas-y, dis-moi. C'est quoi ?
Dieu est retourné au village, je crois, ils ont tous pris des feuilles et les tapés, ils ont fait un passage et Dieu avec des feuilles, ils ont fait du vent.
Ok, vous savez comment on appelle cette fête, le début de Pâques ? C'est écrit là, ceux qui savent lire, les rameaux. C'est quoi Jésus un rameau ?
Tiens.
Tu sais pas. Qui sait ce que c'est qu'un rameau ? Ah, je me tourne vers les adultes. Non, sérieusement. Tu peux leur donner, ils ont participé. Vous avez entendu, hein ? On n'a pas demandé des bonnes réponses, on a dit ceux qui participaient. Donc c'est la grâce absolue ce matin.
Prends-en.
Qui sait ce que c'est que des rameaux ? Alors en fait, c'est tout bête. Regardez, ça c'est un rameau. Comme ça, ça c'est un rameau. Et ça aussi c'est un rameau. Et pourtant, c'est pas le même arbre. C'est juste qu'un rameau, c'est une branche d'arbre. Et eux, ils étaient dans le sud, à Jérusalem. Donc ils avaient peut-être un arbre comme celui-ci, probablement des palmiers, des branches de palmiers. Et en fait, quand Jésus est arrivé, ils ont mis des branches par terre. Vous voyez, Jésus est arrivé et il arrivait sur un âne, et donc ils ont jeté leurs vêtements et aussi des branches pour que c'était un signe honorifique quelque part, comme si on mettait un tapis rouge. Là, les enfants, c'est un tapis vert ce matin, mais quand Jésus est arrivé, on l'a reconnu comme un VIP. C'était le roi d'Israël, le Messie. Et ceux qui ont acclamé Jésus, ils ont poussé quel cri ? Est-ce que vous vous souvenez, les enfants ? Quel cri ils ont poussé ? Alors, vas-y, Josué.
Hosanna, Hosanna.
Ah, Hosanna. Toi, t'allais dire quoi ? La même chose. Eh bien, tu peux leur donner des œufs, hein ? Et oui, ils ont crié Hosanna. Regardez le texte. C'est dans Luc chapitre 19. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre aussi dans vos Bibles. Sinon, vous regardez l'écran. Je ne sais pas si vous allez voir du fond de la salle. En tout cas, moi, je vais lire ce texte dans Luc chapitre 19. Jésus se mit à marcher en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples.
Allez au village qui est en face.
En y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez cet ânon, amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, il vous faudra répondre... parce que le Seigneur en a besoin.
Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent :
mais pourquoi détachez-vous cet ânon ?
Ils répondirent :
mais parce que le Seigneur en a besoin.
Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis, ayant jeté leur manteau sur l'ânon, ils y firent monter Jésus. À son passage, les gens entendaient, pardon, à son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur la route. Lorsqu'il était déjà près de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, transportée de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus.
Les enfants, vous voyez la phrase juste à côté du numéro 38, on va la lire tous ensemble très très fort. Parce que ça, c'est ce que les gens, ils ont crié quand ils ont posé les manteaux. Ils ont crié, et les adultes, vous avez le droit de faire avec nous. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux.
Et donc,
dans ce texte, eh bien, on voit que les gens, ils ont loué Dieu à voix haute. Ça ne vous rappelle pas une histoire et gloire au plus haut des cieux? Ça ne vous rappelle pas un moment, une fête qu'on a fêtée il y a 4 mois? Quelqu'un qui était dans le ciel, Licia? Quoi? Noël, exactement. Ils chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux. Est-ce qu'on a une raison de honorer Dieu? Honorer, ça veut dire lui dire, waouh, Dieu, tu es le roi, on va t'honorer. Hein. Alors, ils ne lui ont pas mis de couronne, mais le fait qu'ils aient mis tout ça devant lui, c'est comme s'ils voulaient l'honorer. Alors, le micro des enfants. Qu'est-ce que tu peux dire pour honorer Dieu? Qu'est-ce qu'on peut dire de qui lui fait honneur? Vous avez une idée?
Merci pour nous avoir sauvés tous les jours et de nous guider dans notre vie.
Bien, merci, José.
Merci de protéger dans ces moments durs et difficiles.
Bravo! Tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu pour l'honorer, pour dire quelque chose de super? Dieu, il a quelque chose de super en lui. Vous voudriez dire quoi? T'as une idée, Alice?
Je ne parle pas dans le micro.
Pardon, oui, excusez. J'en ai un là. Alors les adultes, vous avez un petit papier vert, un petit rameau qui a été posé sur votre chaise. Il y a des stylos. Et les enfants, vous allez aider à distribuer les stylos, s'il vous plaît. Parce qu'on vous invite pendant les 3 prochaines minutes à faire vos petits rameaux qu'on va poser là, où vous allez écrire un sujet de bénédiction que vous pouvez dire sur Dieu. Alors moi, par exemple, les enfants, j'écrirais « Seigneur, je suis touchée par la grandeur de l'univers. C'est immense. Waouh, t'es fort. » Alors, ça fait long à écrire. Mais vous pouvez essayer d'écrire comme ça. Alors, on vous donne les stylos. Est-ce que tout le monde a un petit papier?
Normalement, c'était sur chaque siège, on a mis un petit papier vert.
Vous
voyez, avec une feuille. C'est symbolique, ce qu'il fallait pouvoir écrire. Hein. Sur une branche, c'est compliqué, mais sur une feuille, on peut. Et donc, on vous invite à écrire un sujet de reconnaissance.
Quelques minutes, on s'offre ce temps-là. Merci pour la musique. Tu peux les distribuer. Et gardez-les précieusement, on viendra les poser pendant les prochains chants, les prochains cantiques. Les enfants, vous, j'en ai fait un gros, vous allez écrire dessus.
T'en as deux.
Tiens. Tiens, vous allez écrire derrière vous. Vous écrivez à côté, derrière. Vous n'avez plus de feutre? Gardez bien les petits papiers, on va venir les poser tout à l'heure au pied de, on imagine, Jérusalem, l'entrée de Jésus sur l'anneau. Une petite introduction sur le mot Hosanna.
Alors, Hosanna, au tout départ, et en fait, il n'y est qu'une seule fois dans l'Ancien Testament, dans un psaume. Et au départ, ça signifiait « Sauve-moi ». Donc, c'était un cri, vraiment, un cri vis-à-vis de Dieu. « Sauve-moi, Seigneur ». Et donc, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, cette expression, elle a un petit peu changé de sens, et on la trouve, nous, quand on arrive dans le Nouveau Testament, avec un sens légèrement différent, on va dire complété. Il y a toujours l'idée du salut, mais cette fois-ci, au lieu de se trouver dans la noyade, c'est qu'on voit, le maître-nageur arriver. D'accord ? Et donc, on est en train de se noyer, mais là, on est trop content de voir le maître-nageur parce qu'on sait qu'il va nous sauver. Voyez ? Et donc, finalement, ce cri « Hosanna » s'est un petit peu transformé en un cri de joie. D'accord ? Et c'est pour ça que quand on voit les anges dans le Nouveau Testament qui crient « Hosanna !» c'est un cri de joie. Hosanna, ça veut dire « Hourra pour le salut !» Il vient, il est là, le salut arrive, je le vois de mes yeux. Et donc, le maître nageur qui est là, le sauveur, le sauveteur, il est là et c'était le Messie que les Juifs attendaient. Et il faisait « Hosanna !» Les enfants, vous pouvez crier avec nous parce que c'était un cri de joie. Hosanna ! Hosanna ! Jésus arrive ! Jésus arrive ! Le Messie arrive ! Notre Sauveur est là ! Ça devait être absolument génial. Et donc, bien sûr, ils ont lancé leurs vêtements. Vous imaginez ? Vous voyez quelqu'un, vous voulez pas qu'il souille ses pieds, et donc vous enlevez votre veste et vous la posez par terre pour qu'il marche dessus. Oh ! Ça, c'est quelque chose. Vous avez une reconnaissance et une joie, un émerveillement, parce que c'est votre Messie, celui que vous attendez depuis toujours qui est là. Enfin, il est là. Hosanna. Donc, ce que je vous invite à faire, tout le monde, les enfants comme les adultes, on va se lever et on va chanter trois cantiques sur cette thématique de la joie et du cri de joie. Et donc, moi, je vous invite, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de l'année pour les croyants, à vous lever avec la banane. On met nos soucis de côté, on regarde à Christ, et là, on va rayonner de joie.
Jésus. joie, jour de victoire. Il est en sa main.
Là, on a vu le premier tableau, c'est le tableau des rameaux. Quand on va changer de tableau pour mieux comprendre comment la dernière semaine de Jésus s'est rangée, je vais faire juste ce bruit-là. Donc là, imaginons, on était dimanche. Les gens, ils veulent que Jésus soit le roi, ils pensaient que c'était le Messie qui était là et que tout de suite, il allait faire installer son royaume. Le dimanche, ils étaient emballés. Mais les choses ont un petit peu changé dans la semaine. Vous vous souvenez de la suite de l'histoire ? On va passer au tableau numéro 2, qui est juste derrière nous ici.
Est-ce que vous reconnaissez le tableau qui est juste ici ? Alors, tu balades-toi avec le micro.
C'est quand Jésus était avec ses disciples. Ils ont mangé du pain avec du vin et ils ont dit que le pain c'était le corps de Jésus et le vin c'était son sang.
Ok. Alors pour nous qui connaissons rien à la culture juive, ça peut paraître étrange. On prend du pain et on prend du vin et puis voilà, ça nous donne un sens. Alors, c'est vrai que les apôtres vont donner aussi un sens, mais que Jésus, lui, va prendre un sens qui est déjà existant, et il va, donc déjà existant dans le peuple d'Israël, chez les Juifs, et il va plaquer sur cette existence une nouvelle Pâque. Ah oui, j'ai lâché le mot. J'aurais peut-être pas dû lâcher le mot. Donc, c'est ce qu'on appelle la scène. Hein, donc ça c'est pour nous aujourd'hui, mais au départ, la scène, c'est pas ce que ça signifiait. Il y avait un autre mot pour ça, et c'était la, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, la Pâque. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on faisait les enfants lors de la Pâque ? Et pourquoi on a célébré la Pâque ? Parce que c'est une fête, une des trois grandes fêtes juives que Dieu avait instaurée et qu'il fallait répéter chaque année. Donc la fête de Pâques, c'était quelque chose que les Juifs attendaient. Qu'est-ce qu'on célébrait le jour de la Pâque ? Est-ce que vous pouvez nous aider les enfants ? On a oublié, nous on est des anciens, des fois on perd la mémoire. Alors il me semble que la semaine dernière, vous avez eu un petit rappel. On part pas de rien, hein.
Ils pendaient avec du sang à les portes.
Ah. Ouais. Donc on faut broder autour maintenant. Donc du sang et des portes. Ça vous dit quelque chose, les grands, les adultes ? Du sang et des portes. Ah, Égypte. On a entendu un mot Égypte. En fait, la fête de Pâques que nous, on célèbre aujourd'hui, ou la Sainte Cène, comme elle est appelée aussi, ou le repas du Seigneur, ou la fraction du pain, il y a plusieurs expressions dans le Nouveau Testament qui parlent de ce moment-là. En fait, c'est un héritage, bien sûr, du peuple d'Israël, qui était sous le joug égyptien pendant 400 ans. Vous imaginez, 4 siècles d'esclavage. Et ça devenait très difficile. Et donc, le peuple d'Israël voulait s'en aller. Mais il y avait quelqu'un qui les retenait. Comment s'appelait-il ? Un roi ? Vas-y, ils lèvent tous la main, là. On va distribuer des œufs, je crois.
Jésus,
le roi qui les empêchait de sortir.
Alors, quelqu'un qui empêchait les Juifs de sortir d'Israël.
Pharaon.
Et oui, c'était un roi. Et qui empêchait, ne voulait pas qu'il s'en aille parce que, eh bien, il travaillait gratuitement, hein, ou pas très cher en tout cas. Et donc, comme ils allaient s'en aller, ça veut dire qu'ils perdaient beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, il n'a pas voulu qu'ils s'en aillent. Et Dieu a dû envoyer des plaies pour faire comprendre au pharaon qu'il fallait qu'il laisse aller son peuple. Il a envoyé 10 plaies. Et la 10e plaie, c'était quoi la 10e plaie ? Alors là, vous allez nous aider.
Tu te souviens, on l'a fait la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'était passé avec l'ange de...
Il y a un ange d'ombre qui est venu le soir et il a regardé sur les portes que s'il avait un sang d'agneau sur la porte, il ne pouvait pas entrer. Mais s'il n'en avait pas, il entrait et tuait la première personne de la famille.
Ouais, tu peux lui donner un œuf, là. Hein. On va juste regarder 3 versets dans ce texte. Ah, en fait, la Pâque, elle a été instaurée, mais le mot en hébreu, c'est Pessah, et ça signifie passage. En anglais, c'est pass over, passe au-dessus. Vous voyez ? Et donc, Et effectivement, regardons ce que le texte dit. Alors, attendez, je vais le lire, excusez-moi. C'est dans Exode chapitre 12, je vous lis trois versets. Au verset 12, « Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. » Donc vous voyez, dans cette plaie, Jésus demandait un acte de foi. D'accord ? Il demandait à ce qu'on tue un agneau, qu'on le mange rapidement, qu'on le fasse rôtir, qu'on ne brise pas ses os, et ensuite qu'on s'en aille. D'accord ? On devait manger. Mais avant, et donc ça allait se passer le soir, on devait prendre le sang de cet agneau et en badigeonner sur les poteaux de la maison, tout le cadre de la porte, les poteaux et le linteau, comme ça. Et on devait mettre du sang. Et l'ange passait et... s'il y avait du sang, il laissait passer. Et en fait, c'est un symbole, ici, du salut par la foi. Parce que, en fait, c'est quand même bizarre de dire qu'il y a un truc qui va se passer, qui est assez grave, un jugement, mais que juste en mettant du sang sur le cadre de sa porte, on est protégé. Et donc, c'était un acte de foi. Et ça nous sauvait de la mort physique. Le premier-né de chaque famille était épargné. Et si on le faisait pas, eh bien, le bétail, mais notre fils, notre premier, le premier-né de la famille, le fils ou la fille d'ailleurs, le premier-né, eh bien, il allait mourir. C'est qui le premier-né dans la famille ? Ouais, c'est toi. Et il y en a qui sont tout seuls, alors là, t'as pas de choix, toi. Joey, c'est toi qui pars. Alice, tu peux dire, waouh, moi j'échappe, mais tu verrais ton frère, pouf. Qui sont les aînés des familles ici ? Eh bien, vous auriez disparu si vos parents n'avaient pas mis le sang sur les poteaux. Et donc, c'était un symbole, donc non seulement pour le salut physique, hein, donc il allait nous sauver de la mort physique, et j'utilise ce mot, et on était couvert par le sang, d'accord ? C'était aussi un symbole de libération de l'esclavage physique par rapport au pharaon, hein. Donc c'est un vrai esclavage. On était des esclaves. Et bon, il va nous libérer. Et il y a aussi le passage de l'Égypte à Canaan. Là, on allait arriver dans la terre promise. Et donc, on va passer d'un royaume terrestre, on va aller dans un royaume, le royaume d'Israël, qui sera un royaume terrestre et sur un territoire matériel. C'est encore une fois physique. C'était Canaan. Et donc, Jésus, il va utiliser ce moment-là. Donc c'était le jour, juste la veille de Pâques, c'était le jeudi soir. Et donc Jésus, il va instaurer ce qu'on appelle la scène, et il va reprendre les quelques éléments de la Pâque, et il va y attribuer autre chose. Et là, vous allez m'aider les enfants, parce que finalement, quand Jésus, il instaure, il est à table avec ses disciples, ils sont en train de manger la Pâque, donc il leur a fait préparer cette Pâque. Il y a eu un agneau qui est mort. Et puis ensuite, ils étaient à table. Alors, très probablement qu'ils étaient couchés sur des tapis. Et donc, ils mangeaient de cette manière-là. Et donc, il y avait sur la table, ou sur le tapis, il y avait de la nourriture, mais il y a aussi des galettes de pain sans levain. Et il y avait du vin. C'était la tradition. Et donc, il y avait du pain. Alors, c'était pas le même pain, parce que celui-là, il est levé, hein, il y a du levain. Et le levain, c'était un symbole de quoi ?
Du péché.
Symbole du péché. Et c'est pour ça que les Juifs, ils devaient nettoyer leur maison quand c'était la Pâque. Ils devaient enlever pendant une semaine, ils faisaient le ménage. Ils devaient rester aucune trace du levain. Donc ça, c'est symbolique, mais il n'y a pas de levain normalement. Et puis, il y avait sur cette table du vin. Et il va prendre ces deux éléments et il va transformer... Pas les éléments, mais il va utiliser ce qu'il utilisait pour la Pâque de l'Ancien Testament. Il va dire, voilà, maintenant, il y a une nouvelle alliance qui va commencer. C'est le Nouveau Testament, une nouvelle alliance, et donc je vais attribuer à ces choses un sens différent. Donc quand il mangeait la viande, ça faisait référence à un agneau. Et Jésus, il est considéré comme quoi dans le Nouveau Testament par rapport à ça? Qu'est-ce que dit la Bible sur Jésus par rapport à l'agneau?
Le sauveur.
Oui, c'est le sauveur. Mais Jean-Baptiste, il dit que carrément, c'est lui-même l'agneau. Que Jésus va remplacer cet agneau. Il y a un remplacement qui se fait. Je vous lis Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est Jean-Baptiste qui voit Jésus et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui couvre le péché du monde. » Vous voyez ? Et donc, il va attribuer un sens. Et c'est ce qu'on voit ici, la scène, donc le repas du Seigneur. Eh bien, il devait aussi manger la chair de l'agneau, mais cette fois-ci, c'était l'agneau parfait. C'était pas un animal, mais il allait remplacer l'animal d'une manière parfaite. Et donc, il va attribuer au pain qu'il trouve sur la table un des éléments, et il va le briser en symbole de son corps brisé pour nous. Parce que c'est l'agneau qui va mourir. Donc Jésus, là, il était la veille de sa mort. Et donc, il annonce... Voilà ce qui va se passer. Pour nous, c'est la fête, mais c'était pas la fête ce soir-là. C'était solennel. Voilà, les amis, je vais mourir. Je vous l'annonce. Mon corps va être brisé. Je vais remplacer l'agneau. Ça sera moi, l'agneau. D'accord? Et donc, vous allez devoir manger ma chair. OK? Comme on faisait avec l'agneau. On mangeait la chair. Et vous savez, il y a la plupart des prisonniers qui étaient sur la croix. On leur brisait les jambes pour abréger leur souffrance. Parce que ça pouvait durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, agonisant sur la croix, on avait de moins en moins de souffle. Eh bien, on leur cassait le tibia, on prenait une grande barre de fer, on tapait. Et donc, comme ça, ils pouvaient plus porter avec leurs jambes et oh, ils mouraient asphyxiés très rapidement. Eh bien, Jésus, il a donné, il a rendu l'esprit. C'est lui-même qui a donné ça. Et on n'a jamais brisé ses jambes. C'est quand même étrange que dans l'Ancien Testament, on demande à un agneau de le manger et de pas briser ses os. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait. Il accomplit la Pâque de l'Ancien Testament. Donc, eh bien, c'était là aussi un acte de foi. Manger et boire son sang. Et donc, boire le vin, c'était du liquide, c'était rouge. Et donc là, c'est de la pédagogie de Dieu. Il reprend un élément pour lui donner un sens. Voilà, ça c'est le sang. Mais vous n'avez plus besoin de le badigeonner. Maintenant, il va falloir me faire confiance. J'ai tout fait à la croix. Vous avez besoin de rien faire. Simplement reconnaître. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. Reconnaître que vous avez besoin de ce sang. Et ça c'est, encore une fois, un acte de foi. Mais cette fois-ci, ça va nous sauver d'une mort beaucoup plus longue. C'était pas la mort physique, mais une mort éternelle. Dieu, en venant sur cette terre, en mourant, va nous épargner de la mort éternelle. Waouh ! C'est beaucoup plus que cette vie, la mort éternelle. Ça dure combien de temps, l'éternité, à votre avis ? Vas-y, Josué.
Jusqu'à...
C'est un piège.
Ça s'arrête jamais ?
Voilà. C'est très, 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 très long. Je rigolais d'avance, je me suis dit qu'est-ce qu'il va trouver comme réponse, mais c'est super, tu peux encore lui donner un chocolat. Hein. Et oui, l'éternité, ça dure très longtemps, il n'y a pas de fin en fait, c'est sans fin, mais soit on l'a fait avec, soit sans Dieu. Oui, tu voulais dire quelque chose ?
Normalement, ça dure un peu plus que 100.
Un peu plus que 100 ans, ouais, je pense que largement beaucoup plus même. Si tu meurs à 100 ans, c'est que t'es vraiment très, 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 très jeune. Mais tu mourras plus. Parce que dans le ciel, on mourra plus. Justement, Jésus nous prend avec lui dans un monde parfait où il y aura plus de maladies, il y aura plus de souffrances, il y aura plus d'arthrose, il y aura plus de myopie, il y aura plus de cancer, il y aura plus tout ce qu'on vit aujourd'hui à cause du péché. Toutes ces choses vont disparaître. Et donc, il nous donne ici un autre symbole, et donc c'est un symbole de libération de l'esclavage spirituel, et donc par rapport au péché, vous voyez ? Donc ce qui était physique dans l'Ancien Testament, on libérait le peuple des mains du Pharaon, mais Pharaon, ça représentait le péché. Aujourd'hui, c'est une libération spirituelle par rapport au péché. On n'est plus esclave du péché avec Jésus. Et ça, ça change beaucoup de choses, on le verra tout à l'heure. Et puis, on est passé d'un royaume terrestre, donc le royaume d'Israël, sur une terre bien terrestre, hein, Canaan. Aujourd'hui, on a un autre royaume qui, lui, est spirituel. C'est le royaume de Dieu, le royaume céleste. Et donc, vous voyez, ce qui était physiquement visible dans l'Ancien Testament, eh bien, ça va être transposé. Il reprend exactement les mêmes choses, mais il montre que le royaume, il sera plus long, il sera meilleur, en fait. Et c'est pour ça que l'alliance du Nouveau Testament, elle est plus grande, elle est meilleure de loin que celle de l'Ancien. C'est génial. Nous, on bénéficie de la richesse des Juifs, de tout ce que Dieu avait déjà mis en place. Et nous, à la lumière de Jésus, tout s'éclaire. Je trouve ça fantastique. Et le jour de Pâques, on découvre ça. Et je peux vous dire qu'on pourrait passer 3 heures juste pour essayer de décortiquer chaque symbolique, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Là, on en a pris juste quelques-unes, mais ça va très très loin. C'est absolument fantastique. Est-ce que vous êtes prêts pour rester 3 heures, les enfants ?
Oui.
Ah ! Vous voyez l'enthousiasme ? Ils sont prêts. En fait, la Bible, au départ, Dieu avait créé un monde parfait. Dans un monde parfait, et l'homme avait un choix. Il devait faire un choix sur un arbre. Il y avait des milliers d'arbres qu'il aurait pu manger, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, je ne sais pas. En fait, il y avait beaucoup d'arbres avec des fruits à profusion. Il aurait pu manger de tous ces arbres. Et Dieu, il dit, je vais tester sa foi. Est-ce qu'il me fait confiance ? Et donc, il a dit, ok, tu peux manger de tous les arbres. J'insiste là-dessus. Tous les arbres. Juste un seul. Je veux pas que tu manges du fruit de celui-là. Et vous savez ce qui s'est passé ?
Il a mangé.
Qui il ? T'es sûr que c'est il ?
Non, elle.
Ah.
Elle a mangé. Après, elle l'a donné à son mari Adam.
Ah, et... voilà. Est-ce que Adam était responsable ? Il était responsable parce qu'en fait, le commandement, il lui a été donné à lui. Ève, elle n'était même pas encore là. Et donc, ça a été à lui. Vous pourrez regarder le texte, c'est bien ça. En fait, ça a été donné à Adam. Bien sûr, Ève l'a prise, mais c'est lui qui lui donnait les consignes et il n'a rien dit. Petite tendance masculine. On voit les problèmes et on dit rien. On laisse faire. Et en fait, Adam, il était totalement responsable. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un cataclysme qui s'est passé. L'homme est devenu pécheur et mortel. Et aujourd'hui, autour de toi, il n'y a que des gens mortels. Et la Bible, elle dit, parce que tous ont péché. Tous, sans exception, moi aussi. Les pasteurs, les curés, le pape, tous, ils sont pécheurs. Même le Dalai Lama. Tout le monde. Tout le monde, on est tous pécheurs devant Dieu parce que lui représente la perfection. Et donc il dit qu'il y a une conséquence à ça. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la conséquence de notre péché. C'est la mort, mais ça commence par la mort physique, mais après il y aura une mort qui sera plus longue. Ça sera la mort éternelle. Et dans Romains 6, il dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il dit qu'il y a un don qu'on peut recevoir. Comment est-ce qu'on peut recevoir ce don, à votre avis ? Il y a déjà la réponse ici. Mais comment on peut recevoir ce don de Dieu ? Il dit, hein, je répète, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. » Comment on peut recevoir ce don ?
En croyant sur lui que c'est notre sauveur.
En croyant que c'est notre sauveur. Tout simplement. En fait, c'est y a rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des œuvres, ils veulent aller faire des pèlerinages, ils veulent faire plein d'actions. Pour faire quoi ? Bah pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer de gagner le ciel. Mais on peut pas. On ne peut pas. Jean 3,16, vous le connaissez les enfants, vous allez pouvoir le dire tous ensemble. Qu'est-ce que dit Jean, chapitre 3, verset 16 ? Vous vous rappelez ? Allez, Licia. Dieu, il a tant aimé qui ?
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Vous avez tous entendu ? Je le répète ? Car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a créé. Au départ, il était parfait, mais plus maintenant. Il a tellement aimé ce monde qu'il a décidé de faire une chose. Il a envoyé son fils, Jésus. Il s'est incarné en tant que Dieu, il est venu sur terre. Pourquoi ? Afin que quiconque croit en lui place sa confiance en lui. C'est ça, croire dans la Bible. Place sa confiance en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez, on a basculé de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance ici. Jésus, il meurt pour nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Eux, c'était pas très rationnel. Hein ? En fait, si tu veux t'épargner de la mort, tu prends du sang et tu le badigeonnes. Franchement, il y a mieux, quoi. Hein ? Et là, qu'est-ce qu'il nous demande de faire ? Croire. Pas plus compliqué que ça. Croire dans ce que Jésus a fait sur cette croix. Il est mort pour qui ? Pour moi. Quiconque croit en lui, celui qui va placer sa confiance en Dieu, il va transformer sa vie, son cœur, et tout va changer. Et donc, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est qu'on va se souvenir de ce que Jésus a fait. Parce que quand il est venu sur la croix, c'est ce qu'il a fait. Il a porté nos péchés sur la croix. La colère de Dieu qui nous était réservée, elle est tombée sur lui. Jésus, hein, vous avez vu ici, là, il y a une croix. C'est une sorte de paratonnerre. Nous, on est derrière la croix. Si on se place derrière la croix, on ne craint pas la colère de Dieu. Mais si on n'est pas derrière la croix, si on ne se cache pas sous la croix, eh bien, on prendra la foudre, la colère de Dieu. Donc Jésus est là pour prendre cette colère à notre place. C'est à ça que ça sert un paratonnerre. La foudre, elle tombe, et lui, il va capter cette colère, et il va la prendre sur lui. Et c'est ce qui se passe. Donc si tu ne te places pas au pied de la croix, eh bien, tu es toujours sous la colère de Dieu. Et donc ce matin, moi, j'aimerais inviter, et là, je vais demander aux parents, on va prendre ce symbole ensemble. Donc, je vous donne une petite règle pour les parents. C'est à vous de dire à vos enfants s'ils peuvent prendre la scène. Donc, il y a le pain et le vin. C'est pas nous qui allons légiférer, on demande aux parents de le faire. Est-ce que vous pensez que vos enfants peuvent prendre la Sainte Seine ? D'accord ? On ne la limite pas ce matin. C'est particulier, mais tout simplement, parce que si vous avez placé votre confiance en Jésus, alors vous allez reconnaître ce pain. Oui, Jésus est mort pour moi, je peux manger. C'est mon sauveur, d'accord ? Donc je peux manger cette chair. Et oui, son sang a pardonné. Il m'a pardonné tous mes péchés. Et donc je peux boire le sang de la coupe, d'accord ? Et c'est ce symbole-là qu'on va prendre ensemble. Donc je vais inviter les musiciens à faire... à jouer, et les quatre personnes qui ont été désignées donc vont vous distribuer du pain que nous allons manger ensemble. Pendant ce temps, vous pouvez prier, il y a une petite musique de fond, vous pouvez remercier Dieu. Si vous êtes comme ces Juifs, quand Jésus est entré à Jérusalem, vous pouvez dire « Hosanna, Seigneur, c'est génial, je vois Jésus, il est là, le Sauveur, c'est lui ». Si c'est le cas pour vous, alors prenez, mais totalement librement, cette scène. Vraiment. Et il y a du vin tout le tour, des petites couronnes ici, et au milieu, au centre, il y a du jus de raisin pour ceux qui ne voudraient pas boire du vin. D'accord ? Donc on va passer dans les rangs, dans les quatre blocs, avec du pain et du vin. Donc je vous invite, si vous pouvez venir, moi je vais prier. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège. Tu nous demandes de faire ça en mémoire de toi. Tu nous demandes symboliquement, de manger du pain qui représente ton corps, qui a été brisé pour nous. Et tu nous demandes aussi de prendre du vin, un liquide rouge, comme du sang, parce que c'est le sang de la nouvelle alliance, ce sang qui nous réconcilie avec toi. Seigneur, c'est extraordinaire de pouvoir prendre cette scène. Merci pour ce privilège. Merci pour la grâce que tu nous fais. Alors que nous méritions absolument rien, tu nous donnes tout. Seigneur, on n'a qu'à saisir ces choses par la foi, en te faisant confiance. Donc bénis ce temps, Seigneur. Bénis ce pain et ce vin, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Le pain, ouais. Vous pouvez prier pendant ce temps et faire monter des cris de joie aussi au Seigneur. C'est solennel et en même temps c'est joyeux. Mais ça, c'est la foi chrétienne.
Ce pain qui est ton corps, qui symbolise ton corps, qui a été brisé pour nos péchés. Béni sois-tu. Amen.
Amen. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi, avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Et il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. » Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qu'il trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et je vous invite à manger ce pain maintenant. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et donc, on va vous distribuer maintenant le vin. J'attends que tout le monde l'ait entre les mains. Au centre, c'est le jus de raisin. Donc si vous avez reconnu que Jésus a été brisé, son corps a été brisé, et que son sang a coulé pour vous, pour pardonner vos péchés, alors prenez-le avec reconnaissance, avec joie, et buvons ensemble.
On change de tableau, les enfants. On a fait les rameaux, on a fait le repas du Seigneur, donc on est le jeudi. À la fin du repas, eh bien, Jésus il est sorti avec ses disciples. Pas tous ses disciples. Vous vous souvenez ce qui s'est passé? Tu peux aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tous les disciples sont partis avec Jésus?
Non, ils ne sont pas tous partis. Il y en avait un, mais j'ai oublié son nom. Il a trahi et a dit aux soldats où Jésus il était pour qu'il aille le prendre, pour le tuer.
Raconte pas tout, on en est presque là. Joey, tu connais le nom de ce disciple?
Il s'appelle Judas.
Bravo, très bien. Alors nous voici avec Jésus, et il n'a pas pris tous ses disciples, il en a pris quelques-uns avec lui, et il est allé dans un jardin. Est-ce qu'il y en a qui connaît le nom de ce jardin? Les grands? Pas facile, hein? Les grands? Merci, il s'appelle Gethsémané. Un jardin, comme c'est étrange. Alors les enfants, à l'école du dimanche, vous vous souvenez, on a déjà parlé d'un grand jardin. Franck, il l'a juste évoqué. Et dans ce jardin, il avait placé l'homme et la femme, et il l'avait placé, comme Franck vous l'a dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Ève et Adam, ils étaient devant un choix. Ils devaient choisir. Est-ce qu'ils allaient manger de ce fruit-là ou pas manger de ce fruit-là? Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, Adam et Ève? On l'a dit tout à l'heure, Joey. Vas-y, tu peux répondre. Ils ont mangé du fruit de cet arbre-là? Oui. C'est terrible, parce qu'ils ont été chassés du jardin. Eh bien, Jésus, on parle de lui, vous savez quel nom lui donne aussi dans la Bible? On dit que c'est le nouvel Adam. Et Jésus, maintenant, il est dans un jardin. Alors, on va regarder une petite vidéo. Mais avant, je vous donne juste quelques explications. Parce qu'il y a dans la vidéo, alors les parents, vous avez les paroles, et je vais vous les donner, les enfants. C'est le petit papier vert qui était sur vos chaises. Il y a l'image de la coupe. Alors, on a vu une coupe tout à l'heure. C'est la coupe où il y avait le sang de Jésus. Et là, la coupe, ça représente des choses terribles qui vont arriver à Jésus. C'est ce qu'on va voir après le chant. Alors, Jésus, il est là. Je vais vous lire le passage dans la Bible qui parle de cet événement-là dans le jardin. Juste le début, puisqu'après la suite, ça vous sera raconté dans la vidéo. Excusez-moi, je mets mes lunettes. Donc, je suis dans l'évangile de Marc. Et je vais lire, ça va s'afficher normalement aussi. les versets 32 à 36. Alors, la traduction, elle est un tout petit peu différente dans ma Bible. Ils s'allèrent ensuite dans un lieu qui s'appelait Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques, Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il parla et dit, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Vous avez déjà dit ça à papa, maman, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux? En général, c'est plutôt moi le chef, moi qui décide, hein, c'est moi le roi. Et exactement ce qu'Ève a fait. Hein. Elle a décidé que Dieu s'était trompé et que l'arbre elle avait le droit d'en manger. Elle ne voulait pas que ce soit Dieu qui soit le chef de sa vie. Elle ne voulait pas de ça. Eh bien, Jésus se retrouve dans la même position, dans ce jardin à Gethsémané. Il est là, il est tout seul, parce qu'il n'y a même pas les disciples. Ils se sont endormis. Il n'y a même pas les disciples. Il est là tout seul et une grande décision doit être faite. Vous savez ce que c'est, sa décision à faire? Tu veux...
Il a décidé qu'il doit mourir avec le péché du monde.
Exactement, merci Henri. En fait, la décision qu'il doit faire, c'est choisir soit il est le super roi adoré par tout le monde, alors j'ose pas le faire parce que je suis pas Dieu, soit il est super roi, hein, les gens ils allaient l'acclamer, « Ouah, Jésus, tu vas être le roi d'Israël, tu vas chasser les Romains !» Soit il va avoir une autre couronne que vous allez voir apparaître. Elle est là. Une couronne un peu différente. Vous la voyez? Alors celle-là, elle n'a pas de clous, mais ce serait une couronne d'épines. Est-ce que c'est un roi comme ça qui fait vraiment le chef et le tout-puissant? Alors il choisit cette couronne-là. Et en fait, c'est ça la coupe. Jésus, il est devant un choix, les enfants. Est-ce que je vais servir mon intérêt? Est-ce que c'est moi qui vais être le roi ou est-ce que c'est Dieu qui va être le roi? On va passer une vidéo, vous allez voir Jésus dans le jardin. C'était un moment terrible pour lui parce que là, il décidait le sort de toute l'humanité. Si Jésus, il n'avait pas fait ce qu'il a fait après, eh ben on serait tous condamnés à mourir. Mais mourir dans notre corps, mais après mourir aussi dans notre âme. Alors on va éteindre les lumières et vous allez écouter la prière de Jésus qui est aussi sur les papiers que je vais vous donner. Si tu veux suivre les paroles. Tiens, si tu
n'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, et je sais que ton cœur de paix écoute chacun de mes soupirs. N'est pas reste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face. Mais là, dans ce jardin, il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance. Le son de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant.
Alors les enfants, voyez, Jésus il était devant un choix, comme Ève devant l'arbre, comme Adam devant l'arbre, mais Jésus il a fait le choix le plus difficile, mais c'est le choix qui permettait de sauver tous les hommes qui placeraient leur confiance en lui. Alors quand il a prié « Éloigne de moi cette coupe », la coupe dont il parlait, eh bien en fait, elle l'emmenait à la croix et il allait prendre ce chemin-là. Il allait, vous l'avez vu dans le film, hein, il allait être trahi, il allait être arrêté, ensuite il allait être abandonné. Tous ses disciples sont partis, ils ont eu peur des soldats. Ensuite, il allait être jugé dans deux cours différentes, chez les Juifs et chez les Romains. Ensuite, il allait subir l'injustice, parce qu'on a beau essayer de lui donner des accusations, des bonnes ou des mauvaises, c'était toujours des mauvaises, puisqu'en fait, il n'avait jamais rien fait de mal. Donc il a subi l'injustice. C'est ça la coupe aussi. Il a subi la condamnation. Vous vous souvenez ? Quand on a dit « Mais je veux le libérer !» Pilate, il a dit « Qu'est-ce que les gens, ils ont crié ? Crucifie-le ! » Les gens qui chantaient « Hosanna », ils chantent « Crucifie-le ! On va le condamner ! Il doit mourir, ce Jésus !» Il a subi ensuite la persécution. On lui a donné des coups de bâton, on lui a donné des coups de fouet. Après, on l'a mis sur la croix. Il a subi l'humiliation parce qu'il a été mis sur la croix comme un voleur. Et pire, la croix, c'était le plus gros des châtiments, comme un criminel. Est-ce qu'il avait tué quelqu'un? Jamais. Et à la fin, eh bien, il a connu la mort, le seul qui pouvait dispenser de la mort parce qu'il n'a jamais péché. Eh bien, il a connu la mort. Ça nous emmène directement au tableau suivant. On va chanter ensemble. Vous pouvez vous lever. Déjà la sixième heure environ, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Faisons silence un moment.
Le mystère du tombeau vide. Écrit par Cassie Martin, illustré par Jenny Brake, lu par Philippe Capitanuc. Il y a bien longtemps de cela. Le mystère du tombeau vide. Écrit par Cassie Martin, illustré par Jenny Brake, lu par Philippe Capitanieu. Il y a bien longtemps de cela, quelque chose de très bizarre s'est passé. Laisse-moi t'expliquer. Dans une ville appelée Jérusalem, un homme très méchant, appelé Barabbas, était en prison. Il attendait sa condamnation. Il allait être mis à mort. Tout à coup, on lui a annoncé « Tu es libre !» Un homme qui n'avait rien fait de mal allait mourir sur une croix à la place de Barabbas. Pourquoi ? Mystère. C'était Jésus qui allait prendre la place de Barabbas. Jésus n'avait jamais rien fait de mal. Au contraire, il guérissait les gens malades et parlait de Dieu à tout le monde. Jésus disait qu'il était le roi que Dieu avait promis, le Fils de Dieu. Mais les chefs du peuple n'aimaient pas ça. Ils ne voulaient pas qu'il soit leur roi. Ils voulaient le tuer. Quand Pilate, le gouverneur romain, a rencontré Jésus, il a compris que Jésus était innocent. Il a dit aux chefs du peuple qu'il allait leur libérer un prisonnier.
« Voulez-vous que je vous libère Jésus ?»«
Non !» ont-ils répondu. « Libère plutôt Barabbas !» Pilate a trouvé ça bizarre. « Et Jésus alors ?»«
Tue-le sur une croix !»
ont-ils crié. Jésus n'était pas coupable, mais Pilate a quand même ordonné qu'il soit mis à mort. Pourquoi ? Mystère. Peut-être sais-tu déjà que c'est Dieu qui t'a créé, ainsi que tous les gens qui vivent sur la terre. Il nous aime tous, et en retour, il nous demande de l'aimer et de lui obéir. Mais en réalité, nous ne l'écoutons pas. Nous ne l'aimons pas vraiment et nous l'attristons beaucoup. À cause de cela, nous ne pourrons jamais vivre avec Dieu. Nous sommes tous condamnés à mourir. C'est horrible ça. Et peut-être que ça te rend triste. Mais Dieu avait prévu un plan de sauvetage extraordinaire. Dieu a envoyé Jésus pour être notre sauveur et mourir à notre place. Jésus a pris notre condamnation, celle que nous méritions. Un vendredi après-midi, Jésus est mort sur une croix. Ce jour-là, le ciel est devenu très noir, et ses amis étaient très tristes. À la fin de la journée, ils ont mis le corps de Jésus dans un tombeau, à l'écart de la ville. Jésus est mort à cause de toutes les mauvaises choses que nous avons faites, que nous avons dites ou que nous avons pensées. Grâce à sa mort, on peut maintenant être pardonné. Comme le méchant Barabbas, nous pouvons être libres. Jésus, le libérateur, nous offre de mourir à notre place. Voilà le mystère de la croix. Un surprenant échange de place. Mais cette histoire extraordinaire ne s'arrête pas là. Jésus avait promis à ses amis qu'il ne resterait pas mort. Il avait dit qu'il reviendrait à la vie après 3 jours. Allait-il vraiment le faire? Ah, il fallait attendre pour savoir. Le dimanche matin, de très bonne heure, un petit groupe de femmes se faufilait dans un jardin. Elles étaient venues voir le tombeau de Jésus. Selon la coutume de l'époque, elles avaient préparé des plantes parfumées pour les déposer sur le corps de Jésus. Mais elles étaient pleines d'inquiétude. « Comment allons-nous entrer dans le tombeau ?» se sont-elles demandées. « L'entrée est fermée par une énorme pierre très lourde. Comment va-t-on la bouger ?» Les femmes avaient aussi très peur des soldats qui gardaient le tombeau. Peut-être que les soldats ne les laisseraient pas s'approcher du corps de Jésus. Avant de mourir, Jésus avait dit que Dieu le ramènerait à la vie. C'est pour ça que les soldats romains gardaient le tombeau. Ils voulaient s'assurer que personne ne volerait le corps de Jésus pour faire croire aux gens qu'il était vivant. Alors que les femmes arrivaient au tombeau, quelque chose de mystérieux s'est produit. La terre a brusquement tremblé et un ange a roulé l'énorme pierre. Les soldats ont eu si peur qu'ils sont tous tombés par terre. Les femmes, elles aussi, ont eu très peur. Tu vois, les anges sont des messagers de Dieu. Ils sont éblouissants et très impressionnants. Peut-être que c'est parce qu'ils passent beaucoup de temps auprès de Dieu, qui est si parfait et si puissant. L'ange a parlé aux femmes et leur a dit « N'ayez pas peur. Jésus n'est pas ici, il est vivant, comme il l'avait dit. Regardez, le tombeau est vide. Allez le dire à ses amis. » Les femmes ont couru chercher les amis de Jésus. Pierre et Jean sont venus en courant pour voir ce qui s'était passé. Comme Jean était plus rapide que Pierre, il est arrivé le premier. Jean s'est arrêté juste à l'entrée du tombeau et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Pierre est arrivé à son tour et il est entré dans le tombeau. Le tombeau était vide. Ils ont tous les deux vu le tissu dans lequel le corps avait été enroulé, mais il n'y avait plus de corps. Ils sont repartis en se demandant ce qui avait bien pu se passer. Le corps de Jésus avait disparu. Personne n'avait pu le voler, puisque les soldats montaient la garde. Où était-il? L'ange avait-il raison? Jésus était-il vraiment revenu à la vie? Il avait dit qu'il le ferait. Mais les morts ne reviennent pas à la vie, si? Tout cela était vraiment mystérieux. Marie pleurait devant le tombeau. Elle aimait Jésus et ne savait pas où était passé son corps. Elle a de nouveau regardé dans le tombeau. Cette fois, elle a vu deux anges. Ils lui ont demandé pourquoi elle pleurait. « Je ne sais pas où ils ont mis le corps de mon Seigneur, » leur a-t-elle dit. Puis, elle s'est retournée. Un homme se tenait derrière elle. Il lui a demandé « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » « Je cherche Jésus. C'est toi qui as déplacé son corps ?» Alors, l'homme lui dit « Marie, c'était Jésus qui lui parlait !» Marie était très surprise et si heureuse. Elle voulait ne plus jamais le quitter. Finalement, le corps n'avait pas été volé. Le corps n'avait pas disparu. Non, le mystère était résolu. Jésus était vivant. Jésus a alors confié une mission spéciale à Marie. Il lui a demandé de raconter à tous ses amis qu'il était bien vivant. Marie était tellement heureuse d'avoir une aussi bonne nouvelle à annoncer. Jésus est si puissant qu'il est même plus fort que la mort. Tout ce que Jésus avait annoncé s'est bel et bien passé. Jésus est vivant aujourd'hui, et à Pâques, nous célébrons sa mort et son retour à la vie. Tout comme Marie, Pierre et Jean, nous pouvons, nous aussi, être ses amis. Tu peux retrouver cette histoire vraie dans la Bible, en lisant Matthieu 28, versets 1 à 10.
Vous avez aimé les enfants ou vous dormez déjà? On a eu un petit décalage. Donc désolé pour le temps, mais on va accélérer. Du coup, on ne chantera pas tout ce qu'on a prévu. Il est déjà midi. Et donc ça, on va rester sur la touche la plus importante. Je disais que le message de Pâques, c'est probablement le message le plus important qui est pour les croyants. Parce que Jésus, il n'est pas resté sur la croix, il est mort et il est ressuscité. Et en fait, ça change beaucoup de choses. Si Jésus n'était pas ressuscité, alors les amis, ça changerait aussi beaucoup de choses. C'est que nous, on serait encore perdus et nos péchés ne pourraient pas être effacés. En fait, en ressuscitant Jésus, le Père Céleste nous montre que le sacrifice de Jésus a été validé. Il approuve que son Fils n'a jamais péché. Il a obéi parfaitement à la loi, et c'est parce qu'il a obéi parfaitement, il n'a jamais commis aucun péché, que Jésus est revenu à la vie. Donc il a pris notre péché, et comme il était parfait, eh bien Dieu il a dit, ok, lui il a pris parfaitement, et donc maintenant, il est sorti du tombeau. Et c'est grâce à ça que nous, on peut être assurés que nos péchés sont pardonnés. Mais il y a aussi notre espérance. Si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien, on n'a pas d'espérance. Si celui qui annonce qu'il y a une vie après la mort ne revient pas de cette mort, alors, effectivement, nous, on n'a aucune espérance. Mais là, Jésus a annoncé qu'il allait mourir, il a annoncé qu'il a ressuscité, et ça s'est réalisé. Il y a eu plus de 500 témoins qui l'ont vu dans des circonstances différentes. Ça peut pas être une hallucination. Ces gens qui l'ont vu ont même propagé ce message-là, et c'était le cœur du message de l'Évangile. Ils ont été prêts jusqu'à mourir pour ce message. Donc si Jésus n'était pas ressuscité, aucun des apôtres ne serait mort pour un mensonge. Mais ils sont tous morts martyrs. Tous. Et si Jésus n'était pas ressuscité, eh bien nous, on serait incapables d'obéir à Dieu, parce qu'en montant au ciel, Jésus a pu intercéder pour nous et il nous a envoyé son esprit. Et c'est grâce à l'esprit aujourd'hui qu'on peut obéir à Dieu, qu'on n'est plus esclave de notre péché. Chose qu'on pouvait pas faire avant. Aujourd'hui, Jésus nous donne cette capacité grâce à l'esprit et c'est à cause de la résurrection. Donc vous voyez que si Jésus n'était pas ressuscité, toutes ces choses, on pourrait plus les faire. On n'aurait pas d'espérance. On serait esclave de notre péché jusqu'au bout, sans pouvoir jamais rien faire. Et on serait perdu, totalement perdu. Donc vous voyez que ça change beaucoup, beaucoup de choses, la résurrection. Ça change encore d'autres choses, bien entendu.